Bonsoir, Bernard Minier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, enfin, en chair et en os, après 2 ans en visio. Pour le nouveau polar, Un œil dans la nuit, qui est paru au mois d'avril aux éditions XO. Donc, le grand retour de Servaz dans ce nouveau polar, et autour du cinéma, plus particulièrement, film d'horreur. Pourquoi ce sujet-là ?
Ah, la question. Oh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais un personnage qui m'est venu assez vite, qui s'appelle Morbus de la Croix, qui est un réalisateur de films d'horreur, qui a réalisé 5 films qui sont devenus cultes auprès des jeunes générations avant de s'arrêter de tourner du jour au lendemain et de se reclure dans les montagnes. Et ce personnage me plaisait beaucoup et je trouvais qu'il avait plein, en fait, je pense, j'imagine qu'on va en parler,
oui.
Mais j'avais plein de choses à faire, il me permettait de faire plein de choses, de dire plein de choses. Et tout de suite, j'ai imaginé un réalisateur de films d'horreur. Moi, je suis un grand amateur de cinéma. Quand j'ai eu une 20aine d'années, j'allais dans les cinémas à réessayer voir les films de Bergman, les films de Tarkovsky, les films de Coppola, des choses comme ça. Et puis, je trouvais que le cinéma d'horreur, c'était intéressant parce que c'est une espèce de niche avec un public très particulier. Et en même temps, c'est un cinéma de genre. Et ce que je voulais faire avec cette enquête policière dans le milieu du cinéma d'horreur, parce que c'est pas un roman horrifique, hein, c'est pas un roman d'horreur, un roman d'épouvante, c'est un roman policier. Ce que je voulais faire, c'était parler du genre, ou des genres, les mauvais genres. Et moi, je sévis dans un genre qui est le thriller. Et quand Morbus de la Croix parle du rapport entre le cinéma qu'il fait, le cinéma d'horreur, et la critique et le cinéma en général, ça me permet de dire des choses aussi sur le rapport entre les genres, dont le mien, et la littérature en général, ou la critique en général. Donc c'était ça un peu l'idée. C'était de parler de tous ces mauvais genres, de la façon dont ils s'articulent et dont ils répondent, et aussi de plein d'autres choses, du voyeurisme de notre société, puisque le cinéma d'horreur, c'est un cinéma ultra violent. Moi, je me rappelle dans les années 70, que je suis quand même né en 1960, donc j'ai de la bouteille. Dans les années 70, Pasolini avait sorti un film absolument abominable qui s'appelait 120 Journées de Sodome, qui était son dernier film. Il est mort peu de temps après. Et c'est ce qu'il voulait faire, c'était dire aux gens, puisque le cinéma devenait de plus en plus violent, vous aimez la violence, vous voulez de la violence, moi, je vais vous en donner. C'est dénoncer un peu le côté voyeuriste. Et c'est vrai que il y a dans la société actuelle un appétit particulier pour la violence dans les films, dans le cinéma, dans la littérature, dans le thriller. Ça, on voit des scènes de plus en plus horribles, de plus en plus violentes, dans beaucoup de romans. Parfois même, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le manque d'imagination est peut-être pallié par cette ultra-violence. Donc j'avais envie de parler de tout ça.
Justement, on parlait de la question de la violence. Pourquoi vous pensez que ça fascine autant là, tout, comme vous dites, il y a eu un gros boom des films d'horreur ces dernières années, et puis le polar et les true crime, enfin voilà, c'est vraiment des genres qui sont en train d'exploser. Pourquoi il y a cette fascination pour la violence ?
Bah, je sais pas, en fait, je peux pas l'expliquer. Moi, je vois en tout cas quand la bascule s'est faite, parce qu'elle s'est faite au début des années 70. Au début des années 70, on a vu tout d'un coup apparaître des films. Je parle du cinéma. On a vu tout d'un coup apparaître des films très violents. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu avec Orange Mécanique, avec Les Chiens de paille de Sam Peckinpah, avec plusieurs cinéastes comme ça qui tout d'un coup se sont mis à représenter la violence, l'ultra-violence sur les écrans. Ça a été une espèce de choc. C'est vraiment arrivé d'un coup au début des années 70 et puis depuis ça n'a cessé de grandir. Il y a une espèce de surenchère dans la violence au cinéma, mais il y a aussi une surenchère souvent dans la violence aussi en littérature, en tout cas en littérature de genre. Et pourquoi cet appétit de violence? On le voit aussi dans les jeux vidéo qui sont de plus en plus violents aussi. Hein. Et ça aussi, ça pose une question par rapport à ceux qui jouent, aux adolescents. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. Mais en tout cas, le fait est là qu'on est dans une société aussi qui, dans la violence, croit. Donc on a ce spectacle de la violence, on est abreuvé de violence en permanence. Et en même temps, on est dans une société qui est de plus en plus violente. Et je n'ai pas l'impression que ce soit une forme de catharsis. Je ne sais pas exactement expliquer le... Mais on a cet appétit pour la violence, en même temps qu'elle nous effraie dans la vie réelle, évidemment. On a en revanche, une fascination pour le spectacle de la violence.
Et pour reparler des films d'horreur, vous avez dit que vous étiez un amateur de cinéma en général, mais le cinéma d'horreur, c'était vraiment une passion avant, ou vous avez vraiment fait beaucoup de recherches? Enfin, on voit que vous avez fait beaucoup de recherches pour le livre, mais est-ce que vous aimiez déjà les films d'horreur avant d'écrire ce livre?
J'étais pas un grand spécialiste du film d'horreur, non, j'en regardais pas tant que ça. Bon, j'avais vu ce que tout le monde a vu, c'est-à-dire L'Exorciste, Shining, Rosemary Baby, Psychose évidemment, et puis d'autres plus récents comme Saw, comme Hostel, des choses comme ça. Mais que beaucoup, qui sont des films très grand public, que beaucoup de gens ont vu. En revanche, j'étais pas vraiment spécialiste, mais pour écrire Un œil dans la nuit, parce que je ne fais jamais les choses à moitié, pour écrire Un œil dans la nuit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai visionné pendant à peu près 6 mois plus de 200 films d'horreur. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une liste à la fin du livre, il y a 150 films sélectionnés par l'auteur. Allez-y, j'ai gardé les meilleurs, hein, parce qu'il y a même beaucoup de choses très mauvaises.
On va en reparler, oui.
Ouais, ouais, il y a beaucoup de films très très mauvais sur les plateformes, hein. N'y allez pas à l'aveugle, parce que vous allez être déçus. Hein. Et j'ai gardé les meilleurs, mais c'est vrai que pendant plusieurs mois, j'ai regardé des films d'horreur quasiment tous les soirs. Je sais pas si j'en suis sorti changé, j'ai pas l'impression.
Sorti indemne ou...
ouais, j'ai l'impression que ça va, je m'en suis remis. Il y a pas de syndrome post-traumatique. Mais je voulais, parce que je voulais être dans la peau de ce réalisateur de films d'horreur. Morbus de la Croix, évidemment, c'est son genre, donc il les a tous vus, il les connaît tous, il connaît ce cinéma par cœur. Donc il fallait que moi aussi, je connaisse ce cinéma-là par cœur, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc j'ai non seulement regardé des films, mais j'ai aussi lu beaucoup d'ouvrages sur le cinéma de genre, sur le cinéma d'horreur, sur le cinéma en général. Il y a des ouvrages absolument extraordinaires, parce que j'ai cette fascination pour le cinéma. Il y a longtemps que j'avais envie de faire... d'écrire un roman qui se passait dans le milieu du cinéma. Moi, les tournages, ça me passionne. Les anecdotes de tournage, je regarde souvent sur certaines chaînes de télé des réalisateurs qui parlent de leur métier, des techniciens de cinéma. Un film réussi, c'est un miracle. Quand on voit tous les paramètres qu'il faut maîtriser pour tourner un film, tous les qu'il faut contrôler, tout ce qu'il faut arriver, toutes les choses qui peuvent mal tourner dans un film... Franchement, d'ailleurs, c'est Bertrand Blier qui le dit. Dans une conversation avec Bertrand Tavernier, il a dit un bon film, c'est déjà un petit miracle. Et en même temps, il y a des moments de grâce uniques au cinéma. Non pas que ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire, hein. Se mettre à regarder que des films. Non, continuez à la lecture, surtout vous arrêtez pas. Mais néanmoins, il y a des instants de grâce, il y a des choses qu'on ne peut voir qu'au cinéma. Il y a des plans de cinéma qui sont d'une telle beauté. Moi, je me rappelle, j'en ai plein en tête, mais dans Laurence d'Arabie, quand on voit, je crois que c'est Omar Sharif qui arrive avec son cheval dans le désert, on le voit apparaître, c'est une toute petite silhouette, et on dirait un mirage parce que l'air tremble à cause de la chaleur, et il grandit lentement, et on le voit sortir comme ça, comme si c'était un mirage du désert, enfin des plans sublimes, il y en a plein dans le cinéma, il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers, et des choses des instants de grâce comme ça qu'on ne voit qu'au cinéma.
Et dans le livre, justement, il y a plein d'anecdotes autour des films, autour des tournages qui sont vrais. Vous mettez des petites annotations, anecdotes véridiques, voilà. Comment vous avez trouvé tout ça, toutes ces petites anecdotes qu'on n'est pas... Enfin, moi, je ne connaissais pas forcément.
Ouais, alors, il y en a quelques-unes qui sont très connues, il y en a d'autres qui le sont moins, parce que je me suis plongé dedans pendant des semaines, pendant des mois, à lire des ouvrages sur le cinéma, comme j'ai dit, à visionner des films. J'en connaissais déjà quelques-unes, hein, puisque je suis quand même... Le cinéma me passionne depuis longtemps. Il y a plein d'anecdotes qui sont absolument fabuleuses et qui sont vraies. Il y a des anecdotes sur le tournage des films d'horreur, par exemple, certains films d'horreur comme La Malédiction, comme L'Exorciste, comme Rosemary Baby. Il s'est quand même passé des choses dans les coulisses assez étranges, mais je vais pas vous les dévoiler, vous les trouverez dans le livre. Mais par exemple, il y a une anecdote parmi d'autres, c'est Sidney Lumet qui demandait au grand Kurosawa pourquoi il avait filmé dans Ran, qui est un film qui se passe au 16e siècle. Pourquoi au Japon, évidemment, pourquoi il a choisi tel plan pour montrer le château du seigneur, plan frontal comme ça. Et donc, Sidney Lumet, qui lui-même est un immense cinéaste, demandait à Kurosawa pourquoi il avait choisi ce plan là, ce point de vue là, cet angle là. Et Kurosawa lui a répondu parce que si j'avais déplacé la caméra de 1 mètre à gauche, on aurait vu l'aéroport, et si j'avais déplacé de 1 mètre à droite, on aurait vu la station de métro. Comme ça se passait au 16e siècle. Donc, des fois, les plans les plus réussis sont dus à certaines contraintes.
Pour reparler de la liste à la fin du livre, donc 150 films, mm-hmm. vous les avez choisis comment ? Parce qu'il y a de tout. Il y a, comme vous avez dit, il y a Saw, par exemple, il y a Get Out, enfin, il y a plein de films différents. Mm-hmm. Comment vous avez fait cette sélection ?
Alors, c'est chronologique. Hein. C'est-à-dire oui. que ça commence dans les années 20-30 avec le cabinet de Dr. Caligari, Nosferatu, des choses comme ça, de Murnau, et puis ça jusqu'à 2021, je crois, 2022. Donc très, très, très récent, effectivement. Ben, en fait, j'ai visionné, comme je l'ai dit, plus de 200 films, et j'ai choisi ce que je trouvais les meilleurs en termes d'intérêt, d'ambition artistique, de jeu d'acteur, d'écriture scénaristique et tout. Il y a énormément, énormément de navets dans la catégorie films d'horreur sur les plateformes. Mais il y a aussi des choses formidables. Il y a les films de Ari Aster, Midsommar, Hérédité, Jordan Peele, Get Out, effectivement, It Follows. Il y a des cinéastes assez jeunes, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le cinéma d'horreur, qui ont vraiment des ambitions et qui font des choses très intéressantes. Et donc, voilà, la sélection, elle était là. Après, il y a quelques films au milieu qui sont là pour d'autres raisons que leur qualité. Soit parce que c'est des films tellement jusqu'au boutiste, qui vont tellement loin dans qui sont quasiment irregardables, insupportables. Je pense à A Serbian Film, par exemple, qui est vraiment le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Et j'en ai parlé avec quelques personnes qui l'ont vu aussi. Moi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je me suis arrêté avant la fin. Je connais quelqu'un qui l'a vu jusqu'au bout et qui m'a dit « La fin, c'est encore pire. » Donc, parce que c'est... Et il y a quelques films qui sont là uniquement parce qu'ils sont tellement jusqu'au boutistes, tellement extrêmes, que je les ai mis dans la liste par leur singularité, quoi, par leur côté, effectivement, on va jusqu'au bout du truc, on va au-delà des limites. Mais la plupart des films qui sont dans la liste sont des films qui sont très regardables.
Vous n'êtes pas fait peur, après ?
Parce que, non, ça va.
On en parlait un peu, non, seul, dans une grande maison, après tous les films d'horreur, là ?
Ben non, mais en plus, il fallait les regarder à des heures où il fait nuit, parce que ça...
Mais oui.
Parce que si on commence à regarder des films d'horreur en pleine journée, là, ça devient glauque. Donc, j'essayais d'éviter. Puis on n'est pas dans l'ambiance. Donc, quand c'est l'hiver, c'est facile. Mais quand c'est mois de juin, comme aujourd'hui, en ce moment, ou mois de mai, il faut attendre. On les regarde assez tard dans la nuit. Mais non, pas du tout. Bon, je vais faire la part des choses, quand même. Non, puis, c'est pas le genre de... Même les jumpscares, ça me fait pas sursauter. Mais ce qui est intéressant avec les films d'horreur, c'est que, par exemple... même quand on sait très bien que tout est faux, on sait très bien que tout est fabriqué, on sait bien que c'est que des trucages, mais ça fait rien quand on regarde par exemple l'aiguille d'une seringue qui va s'enfoncer dans un œil au milieu de la rétine, et on sait que l'œil est faux, évidemment, mais on peut pas s'empêcher de détourner le regard et de regarder ailleurs parce que le cerveau réagit comme si c'était vrai. Et ça, c'est fascinant, je trouve. Et au fond, c'est ce qu'on essaie de faire quand on écrit des thrillers. Bien entendu, vous savez que c'est des mensonges. Bien entendu, vous savez que c'est des histoires que je raconte, que c'est inventé. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'une certaine manière, de croire à l'histoire. Il y a cette suspension d'incrédulité. Il y a cette... un thriller, c'est un exercice d'extrême empathie. Donc, on s'identifie au personnage. On vit ce qu'ils vivent. On ressent ce qu'ils ressentent, en tout cas, quand le roman est réussi.
Au tout début du livre, vous avez cette citation de Conan Doyle, mmh. « L'horreur ne va pas sans l'imagination
ouais. ».
Et dans les livres, effectivement, on joue beaucoup sur l'imagination du lecteur, parce qu'il y a des choses d'une grande violence, mais c'est à l'imagination du lecteur. Alors que dans les films d'horreur, c'est visuel. Mmh. Moi, je sais que, par exemple, j'adore le polar, mais je ne peux pas les films d'horreur. Est-ce que vous trouvez que c'est pire d'imaginer ou d'avoir... devant vous, vraiment
Je sais pas. Je pense que c'est plus intéressant la lecture de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, on laisse la place au lecteur, ce qui n'est pas le cas dans un film. Mmh. Dans un film, c'est sans doute plus insupportable de voir l'image que de la voir. Si moi, je vous raconte que le personnage plante une seringue, enfin l'aiguille d'une seringue dans un œil, il y en a quelques-uns qui vont... Ah, d'ailleurs, je vois une dame là-bas qui baisse la tête. mais néanmoins, c'est pas la même violence que si vous recevez l'image, plus le son, le hurlement de la personne. Mais je pense que c'est plus intéressant la lecture, parce que le lecteur, la lectrice participe davantage. C'est-à-dire qu'effectivement, ils réinventent tout avec leur imagination. Dans un livre, moi, pour la lecture, c'est sans doute la chose, le loisir, ou en tout cas le, l'exercice culturel le plus participatif qui soit. C'est-à-dire que on peut pas quand on est auteur dire, décrire tout, donner tous les détails. Voilà, c'est pas possible, parce que sinon ça, le livre, il faudrait. Ça serait, en revanche, le lecteur arrive et il comble tous les petits blancs du texte. Il remplit tous les détails qu'on n'a pas donné, et donc du coup il s'approprie le livre. Et il y a autant de versions du roman qu'il y a de lecteurs. En plus, c'est souvent une activité où on est souvent seul avec l'auteur. Contrairement, quand on regarde un film, on est souvent plusieurs, pas forcément, mais on est souvent deux, trois, voire plus. Si on est au cinéma, on est toute une salle. Un concert, c'est la même chose. Quand on lit, on est tout seul avec l'auteur et en même temps on participe. On s'approprie le livre, on comble tous les petits blancs du livre, on fait que le livre devient sien. Et il y a autant de versions de Un œil dans la nuit qu'il y a de lecteurs et de lectrices, il y a autant de versions de Madame Bovary qu'il y a de lecteurs et de lectrices, il y a autant de versions du Silence des agneaux qui voilà. Et c'est ça qui est intéressant avec la lecture. Et je pense que c'est, il n'y a que la lecture qui permet ça, qui permet cette participation. C'est sans doute l'activité culturelle la plus participative qui soit. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant.
Et pour revenir au sujet de la violence après dans les livres, dans les films, de manière générale, on va en parler hein, ce soir. Est-ce qu'au bout d'un moment, après avoir vu tous ces films, vous n'avez pas ressenti une anesthésie en fait? Il y a cette question aussi dans le livre, l'anesthésie face à la violence. Même, on voit par exemple avec Servaz dans le livre, lui, il n'en peut plus de toute cette violence. Mais voilà, est-ce que vous n'avez pas ressenti une anesthésie envers toute cette violence?
Non, alors peut-être que au bout de quelques semaines ou quelques mois, effectivement, il me fallait une sérieuse dose pour réagir par rapport au début, quoi. Après, il y a des films qui sont absolument insupportables. Hein, même si vous en avez vu des dizaines, vous êtes obligé de détourner le regard. Il y a des moments que c'est pas possible. Après, est-ce qu'on est pas tous petit à petit mitridatisés ou anesthésiés par rapport à la violence? Dès qu'on allume la télé, on voit les infos, on a le spectacle de la violence. Dès que on ouvre un journal ou on voit sur Internet, on a des faits divers plus violents les uns que les autres. Il y en a tous les jours. Est-ce qu'on finit pas par effectivement réagir de moins en moins? C'est fort possible, oui.
Alors, pour parler des personnages un petit peu, justement, on a commencé avec Servaz et tout à l'heure, vous parliez de Morbus de la Croix. Comment vous avez inventé ce personnage? Je crois savoir que vous avez mélangé plusieurs réalisateurs pour le créer.
Ouais, c'est un peu ça l'idée. En fait, j'avais dans un coin de ma tête un peu le personnage déjà. J'ai fait un peu une synthèse de quelques réalisateurs cultes ou célèbres pour leur frasque ou pour leur exigence, ou voire leur côté tyrannique. Morbus de la Croix, c'est peut-être un mix entre Kubrick, entre Tarantino, parce qu'il est un peu de la génération de Tarantino, et puis il a tout un discours sur le cinéma aussi. Des gens comme William Friedkin, qui a tourné L'Exorciste et qui était un vrai despote sur les plateaux de tournage, en particulier L'Exorciste, il poussait quand même ses acteurs dans leur retranchement, il les maltraitait. De Henri-Georges Clouzot aussi. Clouzot, aujourd'hui, on l'a peut-être un peu oublié, c'est un fantastique réalisateur français, mais c'était aussi... sur les plateaux de tournage, c'était quelqu'un d'absolument épouvantable. Quand il a tourné La Vérité avec Brigitte Bardot, ça a été terrible. Je veux dire, pour accentuer la vérité, justement, du jeu de Brigitte Bardot, pour rendre son jeu encore plus véridique, il l'a privé de sommeil, il faisait boire de l'alcool, il remplaçait ses faux somnifères par des vrais. Enfin, c'est des choses qu'on pourrait évidemment plus faire aujourd'hui, à tel point que Brigitte Bardot, 15 jours, elle avait 26 ans, je crois, à l'époque du tournage de La Vérité, 15 jours après, elle fait une tentative de suicide, quand même. Et aujourd'hui, elle déclare que c'est son meilleur film. Donc, voilà. Et donc, Morbus de la Croix, c'est un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est génial, qui a tourné 5 films devenus cultes, mais qui est barré, qui est un peu fou, qui est misanthrope, qui est provocateur, on le voit dans son discours, hein. Qui est provocateur, qui est tyrannique aussi. C'est un mélange de tous ces gens-là. Kubrick maltraité sur le tournage du Shining. Kubrick maltraité Shelley Duvall, qui était l'actrice qui répondait à Nicholson. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça où, avec des tournages. Alors aujourd'hui, on sait que avec certains mouvements, c'est de plus en plus encadré, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Et il est né en même temps que l'idée du polar, où vous aviez envie de le placer, le personnage. Enfin, le personnage était inventé avant.
Je crois que tout est venu en même temps, en fait. Ouais. J'avais envie de parler de cinéma et tout de suite j'ai eu ce personnage de Morbus de la Croix devant les yeux. Il est petit, il est assez, il a un visage pas très, il a beaucoup de charisme, mais il est plutôt laid. Enfin voilà, c'est aussi un mélange de, c'est pas parce qu'il est petit que je dis ça, mais c'est un petit, il a un petit côté Polanski aussi. Enfin voilà quoi. C'est un mélange de tous ces réalisateurs qui moi m'ont fasciné à la fois par leur personnalité, parfois de manière négative, hein, mais et par les films qu'ils ont tournés. Et des fois, à tel point qu'on peut se demander parfois si un grand film, finalement, il ne faut pas une part de folie, il ne faut pas une part de démesure, il ne faut pas aller très loin pour obtenir. Je pense au tournage d'Apocalypse Now, qui a été dantesque, qui a été l'enfer. Martin Sheen a fait une crise cardiaque, Francis Ford Coppola a fait une dépression, enfin, il s'est passé des choses. Brando était complètement fou sur le tournage et ça a donné un chef-d'œuvre. Donc on se demande jusqu'où il faut aller pour obtenir des grands films, mais peut-être aussi c'est valable aussi avec les livres, je sais pas.
C'est ce que j'allais vous demander. Ouais. Est-ce que c'est valable avec les livres aussi?
Alors moi je connais quelques auteurs de polar. je vais pas te faire délation. Non, en fait les auteurs de polar que je connais c'est étrange, mais ils sont quand même très normaux, moi je trouve, par rapport à ce qu'ils écrivent, parce qu'on écrit des choses absolument abominables. Et quand je cite toujours le même exemple, c'est Franck Tillier, évidemment, comme ça tout le monde connaît. Franck, moi je lui dis toujours, toi t'es anormalement normal. Il y a un loup, c'est pas possible. Il faut pas écrire des choses pareilles en étant aussi normal. Ou alors il a une double personnalité, Franck, je sais pas, mais. Non, la plupart des auteurs que je connais sont quand même des gens assez cool, assez. Je parle du polar, hein. Oui. La littérature blanche, c'est une autre chanson.
C'est une autre folie.
Mais dans le roman policier, alors qu'on écrit des choses totalement.
Oui, vous aussi, vous écrivez quand même assez des choses.
Oui, tout à fait. Après, bon, on va chercher sans doute dans l'obscurité quelque chose, on va chercher une part de nous peut-être qui est plus sombre. Quand on est dans. Quand on écrit, c'est pareil, on est tout seul en train d'écrire. L'écriture, c'est comme la lecture, c'est une activité extrêmement solitaire. Donc on est dans quelque chose, on est tout seul avec soi-même et effectivement, on va peut-être chercher au fond de soi des choses un peu plus noires.
Vous ne vous posez pas des questions sur vous en vous disant comment je peux écrire ça quand même des fois?
Non, du tout. Moi, je pense que je suis assez sain d'esprit. J'espère. Mais de toute façon, c'est pas à moi d'en juger. Hein. Faut demander à mes proches. Peut-être qu'ils seraient pas d'accord, je sais pas.
Un autre personnage aussi, le personnage de Judith, qui est une étudiante qui est justement fascinée par Morbus de la Croix, qui écrit un mémoire sur lui. Elle va donc lui rendre visite au tout début du roman. Et il y a plein de signes annonciateurs, enfin, qu'elle voit. Qui pourrait lui faire marche arrière, en fait, qui sont un peu effrayants.
Oui, qui se multiplient, oui.
Et il y a ce côté un peu, voilà, ça fait penser aux films d'horreur où souvent, il y a des signes qui arrivent sur les personnages et nous, on est derrière notre écran, on se dit non, on n'y va pas. Le personnage y va quand même. Et là, elle y va quand même aussi,
au début. Oui, complètement.
Et pourquoi?
C'est un peu aussi cette idée-là, oui, de certains films d'horreur où on a envie de crier au personnage. Oui, elle lui dit, mais fais pas ça, n'y va pas. Fait demi-tour, c'est l'idée de c'est aussi le départ de Dracula de Bram Stoker, mais et de tous les films de Dracula où Jonathan Harker se rend dans le château de Dracula dans les Carpates en Transylvanie. Et je sais pas si les Carpates et les Transylvanie, c'est la même chose, enfin bon, l'un des deux, et où tous les gitans sur le bord de la route, l'aubergiste, tout le monde lui dit, mais non, c'est pas une bonne idée, faites demi-tour, n'y allez pas. Effectivement, Judith, elle est dans sa voiture, elle se rend dans les montagnes pour raconter. Ah, il faut expliquer que Morbus de la Croix, qui a arrêté de tourner du jour au lendemain, qui s'est reclus dans les montagnes, qui vit dans sa maison au cœur des montagnes avec son épouse Artemisia, refuse toutes les interviews, toutes les visites. Et pourquoi, miraculeusement, il accepte que cette jeune femme qui fait une thèse lui rende visite? On ne sait pas trop pourquoi il a accepté. Et effectivement, sur la route, ça c'est au début du livre, hein, on ne peut pas divulgâcher quoi que ce soit, les signes se multiplient, du genre, est-ce que c'est une bonne idée? Mais ça, c'est typique des films d'horreur. C'est comme quand les jeunes gens qui sont dans une voiture et qui s'en vont dans la campagne, dans, au fin fond du Texas, si c'est Massacre à la tronçonneuse ou ailleurs, et qui, là aussi, les signes se multiplient du genre, on sent bien qu'il va se passer quelque chose.
Mais ils y vont quand même.
Mais ils y vont quand même. Bah, sinon, il n'y a plus de film, il n'y a plus d'histoire.
Oui, c'est ça. Donc, et bon, on va parler de Servaz aussi, forcément. Je crois que c'est la 8e affaire avec lui, ouais, maintenant, ouais, après Glacé, qui était, ouais, le tout premier tome. Mmh. Servaz, on sent que là, il n'en peut plus, quoi. Dans ce polar-là, il arrive au bout. Il arrive au bout, Servaz,
Non. Il est toujours au bout, mais il reste toujours un bout derrière le bout. Donc ça peut durer encore longtemps. Hein. Ça, c'est comme la flèche de Zénon qui n'atteint jamais la cible. Hein. C'est la moitié, puis le quart, puis le 8e, puis ainsi de suite. Et en fait, en théorie, elle n'arrive jamais, même si en réalité, elle touche sa cible. Oui, il est quand même bien fatigué, il est bien cabossé. Puis surtout que dans ce roman, il se passe des choses. On ne va pas dévoiler quoi que ce soit, mais il se passe des choses quand même. Ça va très loin pour le personnage de Servaz. Il va quand même prendre plein la figure. Servaz, le premier roman Glacé est paru en 2011, mais moi, je l'ai écrit en 2008-2009. Et le personnage vieillit, l'auteur vieillit, les lecteurs vieillissent. Voilà, c'est la vie qui suit son cours. Et effectivement, j'étais à l'école de police à Nîmes il y a 15 jours avec d'autres auteurs, et où on a suivi des ateliers très intéressants d'ailleurs. On fait de la formation continue, nous aussi, les auteurs. Hein. Ouais, il faut qu'on se mette à jour sur les techniques et les technologies. Et je voyais ces jeunes gens qui sont qui vont sortir de cette école de police et qui vont être jetés dans le. Ils sont dans un cadre absolument magnifique. L'école de police, elle est au milieu des pins, à côté de Nîmes. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de. C'est tranquille. Le soir, on rentrait, on allait se coucher. Ils étaient là en train de fumer leur cigarette. Ils sont tous très polis. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et ces jeunes gens qui sont dans ce cadre privilégié, ils vont être jetés dans le. Dans la vraie vie, et la vie des policiers aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment, surtout dans certains services, surtout dans certains lieux, dans certains départements, dans certains. Et je pensais à eux, et effectivement, certains savent. J'en parlais avec les professeurs. Certains savent très bien ce qui les attend, d'autres pas du tout. Sont pas conscients de ce qui les attend. Et donc, Servaz, il est confronté à la difficulté du métier de policier aujourd'hui, où c'est de plus en plus violent, on est face à une société de plus en plus violente. Il y a aussi une violence qui est due beaucoup au trafic de drogue, hein, parce que, par exemple, les Pays-Bas sont confrontés, c'est presque devenu un narco-État aujourd'hui, et le trafic de drogue fait que la violence s'installe partout, pas seulement dans les grandes villes aujourd'hui, mais même dans les petites villes, et ça devient de plus en plus compliqué pour gérer ça quand on est en face. Et donc Servaz, oui, il doit affronter tout ça. Là, il affronte des crimes épouvantables, il affronte la violence au quotidien, et il va se passer des choses dans le roman qu'on peut pas dévoiler, mais oui, qui vont quand même très loin.
Et vous avez dit que Servaz et vous étiez un peu comme un vieux couple.
Ouais.
Vous vous lassez pas un petit peu?
C'est pour ça que de temps en temps je fais un pas de côté où je prends, je le mets en vacances, en congé, quoi. C'est pour ça que j'ai écrit Lucia l'année dernière avec un nouveau personnage, une nouvelle héroïne. Lucia, c'est un membre de la Guardia Civile, donc ça se passe en Espagne, un autre pays. Elle est plus jeune que Servaz, donc une autre génération. C'est une femme, voilà, c'est un autre point de vue finalement. C'est pour, et je vais alterner Lucia et Servaz parce que. De temps en temps, oui, j'ai envie de faire des choses. C'est comme dans un couple. Hein. De temps en temps, j'ai envie de faire des choses de mon côté, quoi. Pas toujours. On va pas rester fusionnel éternellement. Et puis, mais Servaz, il me permet de dire plein de choses sur le 21e siècle, sur la société. Par exemple, la chasse, c'était clairement la question que posait la chasse. C'était pourquoi la société a cessé de fonctionner, la société française. Pourquoi la société a cessé de fonctionner. Pourquoi on n'arrive plus à vivre ensemble, pourquoi on n'arrive plus à dialoguer. C'était ça, finalement, le sujet au cœur de la chasse. Et ça, à travers le personnage de Servaz, qui est quelqu'un qui est né au siècle précédent, qui a un certain recul, qui a une maturité. Et ce qui m'intéressait quand j'ai créé Lucia, c'est justement d'avoir une personne plus jeune qui, elle, est plus une jeune femme d'aujourd'hui, quoi, qui maîtrise plus les codes de la société actuelle, qui maîtrise plus la technologie. voilà, c'était ces deux personnages qui sont très différents et donc deux visions de la société différentes aussi.
Oui, parce qu'on le voit un petit peu dans celui-là, Servaz, il est un peu dépassé.
Ça fait longtemps qu'il est passé, Servaz.
Par tout ce qui se passe. Bon, après, il y a ces deux coéquipiers pour l'aider un petit peu, qui sont un peu plus jeunes, un peu plus modernes, on va dire. Mais oui, après, voilà, est-ce que... je sais plus
où je voulais en venir. C'est ce que je voulais faire déglacer. Hein. Voilà, déglacer, il y avait Servaz, mais il y avait à côté Vincent Esperandieu, qui lui est plutôt un geek, qui a 10 ans de moins. Il y avait Samira Chung, qui est franco-sino-marocaine, de père chinois et de mère marocaine. Il y avait Irène Ziegler, la gendarme aussi. Qui était, donc, en fait, ce que j'avais voulu faire déglacer, c'était au fond montrer un spectre aussi large que possible de la société française, de toutes ses composantes, de tous ces aspects, à travers des personnages qui ne sont pas seulement des symboles ou des archétypes. Hein, il ne s'agit pas juste de représenter telle catégorie. Non, il faut aussi que les personnages vivent, qu'ils existent par eux-mêmes, qu'ils aient une vie privée. C'est pas juste des silhouettes ou des symboles. Non, j'espère avoir réussi à en faire des. Et il me semble que c'est le cas des personnages vivants, et en particulier pour Servaz, puisque quand je vais dans les salons, les gens me parlent toujours de Servaz. Ils adorent ce personnage-là. Ils m'en parlent presque comme si le personnage existait, comme s'il était réel, comme s'il était sorti du livre. Et ça, c'est la meilleure, la plus belle des récompenses pour un auteur.
Mais c'est vrai que vous avez créé un flic qui est quand même très humain, et puis il a beaucoup évolué aussi depuis Glacé. Là, on le retrouve père un peu célibataire, partagé entre son métier, son fils.
Bien sûr, oui, il a une vie privée à côté. Moi, c'est en fait quand j'ai découvert qu'on pouvait. Alors, j'avais lu Simenon, j'avais lu Chandler, j'avais lu Conan Doyle et d'autres personnages, mais j'ai découvert en fait, surtout avec Henning Mankell dans les années 90. Qu'on pouvait avoir une enquête policière, un roman policier, un personnage, mais que ce personnage, il existait à côté de l'enquête. Il existait à côté de que c'était pas juste une enquête à la Agatha Christie ou à la... Non, quand le personnage, il avait une vie, il avait une identité. Il avait toute une part de et moi, je trouvais les romans de Mankell formidables. Et pour ça, et j'adorais Mankell à cause de ça, parce que son personnage de Wallander, il existait même en dehors de l'enquête. Et voilà, il rentrait chez lui, il se passait des choses, il avait son père, il avait sa fille. Et finalement, Servaz existe aussi en dehors de ses enquêtes. Et c'est ça que, sans doute, pour ça d'ailleurs, que mes lecteurs, mes lectrices sont aussi attachés à ce personnage. C'est parce que c'est pas juste quelqu'un qui résout des enquêtes, qui mène des enquêtes et qui résout des énigmes. Non, il existe à côté.
Servaz, il aime la musique classique, il aime l'opéra. Vous aimez le cinéma, donc là c'était le cinéma. Celui avec Lucia l'année dernière, on était plus autour de la peinture.
Oui, exactement.
Là, dans le prochain, vous avez un axe déjà, un thème que vous aimeriez aborder.
Oui, alors ce sera ni la peinture, ce sera pas franchement une forme d'art, ce sera ni la peinture ni le cinéma. Le prochain, ça va parler de... Mais je ne voudrais pas trop en dévoiler, parce que j'ai peur qu'il y ait un auteur dans la salle qui me pique l'idée en que j'ai écrit. Donc, ça va parler, en fait, ça se passe en Espagne, on retourne en Espagne avec Lucia. Ça va parler de la fracture entre des gens très riches et des catégories très pauvres. Voilà, c'est des meurtres qui vont se passer. Je ne vais pas trop en dire à ce stade-là, mais ça va parler de ça, de l'hypercapitalisme et en même temps de gens qui tirent le diable par la queue. Et les meurtres auront du sens par rapport à ça.
Alors, on revient au Un œil dans la nuit. J'ai repéré une phrase dans le livre que j'ai trouvée très intéressante, page 119. Morbus de la Croix, enfin son personnage, dit « Les gens m'intéressent, les artistes font ça, ils volent la vie des autres. » Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi, pareil, pour un écrivain, par exemple ?
Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Ah ben bien sûr, un écrivain, il ne tire pas ces histoires de la pure imagination. La pure imagination, ça n'existe pas. Il tire ces histoires de la réalité, qu'il transforme, qu'il transcende, dont il fait... autre chose, mais il a besoin de matériaux, il a besoin de nourrir cette imagination. Et là, il la nourrit comment? Il la nourrit en étant à l'écoute par sa curiosité. Il faut être très curieux de plein de choses. Moi, je suis passionné par plein de trucs, par la science, par les progrès de la science, par des anecdotes, j'adore dans les revues. Ce que je préfère dans les revues, c'est les hors-séries. Quand je vais dans les les bureaux de presse, etc., la première chose que je regarde, c'est s'il n'y a pas des hors-séries sur quel sujet, sur la science, sur l'univers, sur les réseaux sociaux, sur n'importe quoi. Mais les hors-séries où on creuse un peu au-delà des simples articles. Dans ma bibliothèque, j'ai des livres qui parlent de tout, hein, de science, de philosophie, voilà, je suis passionné de plein de choses et on est obligé. Et puis il y a aussi évidemment les anecdotes, les faits divers. On est obligé de nourrir l'imagination. Elle n'est pas de rien. L'idée de glacer, par exemple, pour donner des exemples concrets, ça m'était venu d'un reportage sur France 3 sur une usine hydroélectrique dans les Pyrénées qui était à 2000 mètres d'altitude, mais qui était créée dans la roche. C'était des tunnels. Elle existait depuis 1929 et donc des machines très anciennes. Et tous les hivers, on avait un groupe d'ouvriers qui montaient là-haut, qui allaient passer 3 semaines sans redescendre dans cette usine, puisqu'il y avait un chalet au bord du lac supérieur. Il y avait un chalet et puis un funiculaire qui descendait dans l'usine. Et j'avais trouvé ce lieu tellement extraordinaire, je m'étais dit, mais c'est là qu'il faut en faire une scène de crime, il faut qu'il se passe un truc là-dedans. Et donc, ça a été le point de départ de Glacé, c'était un reportage sur France 3. Il y a plein de... Aime le bord de l'abîme, ça m'est venu de... Tout le monde parlait d'intelligence artificielle, c'était il y a 5 ans à peu près. Et donc, j'ai décidé d'aller voir par moi-même de quoi il retournait, ce que ça cachait vraiment, ces deux mots-là. Et donc, je me suis documenté, j'ai appris énormément jusqu'au jour où j'ai voulu partager ça avec mes lecteurs. Il y a plein d'anecdotes différentes. La vallée qui raconte cette petite ville d'Aiguevive au fond des Pyrénées qui, tout d'un coup, se retrouve isolée du monde parce que la montagne s'est effondrée et a coupé la route. Et évidemment, moi, j'imagine qu'en plus, il y a un assassin au milieu de la population qui en profite pour se déchaîner. Ça vient du fait que la route qui mène à la principauté d'Andorre, qui est une route vitale pour l'économie andorrane, puisque l'économie andorrane fonctionne essentiellement avec le commerce par rapport à la France. Cette route avait été coupée par un pan de montagne qui était tombé dessus, et malgré le fait que c'était une route économiquement très importante, il a fallu entre 15 jours et 3 semaines pour la dégager. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si une route qui mène à une vallée, à une ville dont finalement tout le monde se fiche, était coupé le temps qu'il faudrait pour la dégager. Alors imaginez en plus qu'un assassin à ce moment-là en profite pour se déchaîner, ça, je trouvais l'idée intéressante. Donc voilà, ça peut naître de n'importe où finalement, une idée.
Et pour les lieux, tous ces lieux que vous abordez, vous vous rendez sur place à chaque fois?
Ah oui, la plupart du temps, oui. Oui, je vais sur place. La seule fois où j'y ai pas été, c'est en n'éteignant pas la lumière. Puisqu'il y a quand même une scène qui se passe dans la Station Spatiale Internationale. N'étant pas Thomas Pesquet, c'est un peu compliqué. Mais sinon, oui, je vais pour aimer le bord de la mime, je suis parti à Hong Kong, évidemment. Donc, j'ai exploré Hong Kong de fond en comble, de nuit, de jour. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais lu aussi quelques romans qui se passaient à Hong Kong, dont un de Michael Connelly qui s'appelle « Les 9 dragons », je crois. Ouais. Et Michael Connelly, qui est un ancien journaliste, hein, quand il parle de Los Angeles, il connaît cette ville par cœur. C'est-à-dire, c'est formidable, hein, la façon dont il en parle. Moi-même, j'ai été à Los Angeles. Je peux dire que quand je redécouvre les lieux dont parle Michael Connelly, c'est assez fascinant. C'est aussi quand il parle du LAPD, c'est-à-dire la police de Los Angeles, il sait très bien de quoi il parle. Il connaît les arcanes de ses services de police. Il connaît toutes les subtilités. Et en revanche, il y a un roman, Les 9 dragons, qui se passe à Hong Kong. Et là, quand on connaît Hong Kong comme moi, on sait qu'il a passé 24 heures sur place, pas plus. Parce que ça se passe au pic. Le pic, c'est comme la Tour Eiffel à Paris. Hein. Ça se passe au pic, ça se passe avec Chungking Mansion, qui est une espèce... plusieurs blocs d'immeubles comme ça, avec un vrai labyrinthe, avec des galeries, des passages, des passerelles, avec plein de boutiques à l'intérieur. Chungking Mansion, c'est vrai qu'il y a plein de trafic à Chungking Mansion, c'est du côté Kowloon, il y a plein de trafic qui s'y passe, trafic de drogue, etc., mais c'est des petits dealers, donc c'est assez mal famé, mais en même temps, il y a des touristes partout, c'est comme Pigalle. Pigalle, c'est pas le 9-3, quoi. Donc les gens vont s'encanailler à Chungking Mansion, mais c'est la rigolade, c'est pour les touristes. Les triades sont pas là, la vraie délinquance n'est pas là, la vraie criminalité n'est pas là. Et il se trouve que Michael Connelly, il a situé ça au pic, il a situé ça à Chungking Mansion, et il n'a pas été plus loin. Donc c'est comme un polar qui se passerait à la Tour Eiffel, au Louvre et à Pigalle, quoi. C'est pas très crédible. Et Nesbø, que j'adore, hein, qui est un auteur absolument remarquable, moi un, je trouve que c'est un des plus remarquables auteurs de thriller aujourd'hui, c'est pareil, quand il envoie Ariol à Hong Kong, Ariol il dort à Chungking Mansion et rebelote. Donc on s'est dit non, moi j'ai fait l'effort d'aller au bout du bout des lignes de métro dans les nouveaux territoires où il n'y a pas un touriste. Hein. Il y a des jours où on ne savait même pas ce qu'on mangeait. C'était écrit tout en chinois, c'était même pas en anglais. Et on était là, on était dans une espèce de salle gigantesque, comme grande comme un casino, où il y avait peut-être 500 personnes qui mangeaient en même temps. Et on regardait, on choisissait avec les photos, puis c'est tout, parce qu'on savait pas ce qu'on était en train de manger, quoi. Et j'ai été dans des endroits la nuit, le jour. Alors la nuit, il faut savoir qu'Hong Kong n'est pas une ville très dangereuse, hein. C'est une ville assez sûre. Les triades, il y a des règlements de compte, mais ça se passe entre eux, quoi. Mais voilà, j'ai été dans des endroits où les touristes vont pas. Ce qui m'intéressait, c'était précisément ces endroits-là. C'est pas les endroits où j'étais sûr de croiser des touristes. Ça m'intéressait pas du tout. Donc je fais, oui, cette démarche-là d'aller sur les lieux. Quand j'ai écrit une putain d'histoire, j'ai été à Seattle, j'ai été dans les îles San Juan, j'ai visité les services des shérifs, je suis monté dans leur voiture. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais mis une photo sur les réseaux sociaux où j'étais au volant d'une voiture de patrouille américaine avec le donut, avec l'ordinateur, avec le fusil à côté. Bon, c'était la rigolade, elle était arrêtée. Hein. Je n'étais pas en train de rouler quand même. Faut pas exagérer. Mais voilà, par contre, je les rencontre, je leur pose plein de questions, je visite leur service. Et c'est assez facile. Hein, quand on sait faire, c'est assez facile. Même les shérifs américains. Il y a aucun problème pour visiter leur service, c'est très très simple. Ils adorent parler de, ils adorent montrer leur service, ils adorent. Tout le monde aime parler de son métier finalement. Donc si vous avez la bonne approche, les gens adorent parler de leur métier. Et moi j'adore me rendre sur place, faire ce travail d'investigation, un peu de reporter. Je l'ai fait pour Lucia, je suis parti en Espagne, j'ai rencontré la Guardia Civile. J'étais à l'université de Salamanque, j'ai rencontré ce groupe d'étudiants en criminologie qui est dans le livre, mais qui existe, qui sont dans les sous-sols de la faculté de droit, comme dans le Silence des Agneaux, qui ont un professeur de criminologie qui est devenu le modèle de Salomon Borges dans Lucia. Je me suis inspiré de ce monsieur, d'Eduardo, qui... d'ailleurs, le livre a été traduit il y a quelques semaines en Espagne, et du coup, tous les étudiants en criminologie de la faculté de droit de l'université d'Allemagne ont surnommé leur professeur Salomon, alors qu'il s'appelle Eduardo. Salomon, c'est le personnage du livre, et il est très fier hein, d'être Salomon.
Ah oui, ouais. Et après, vous avez envie de voyager ailleurs?
Ouais, bah, y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Et après, là, déjà, comme je l'ai dit, dans 10 jours, je repars en Espagne pour préparer le prochain Lucia. Donc, je vais aller en Galice. Parce que ça se passera en partie en Galice. Je vais aller à Madrid. Il y a aussi toute une partie qui se passe à Madrid. Je vais aller dans un endroit qui s'appelle Cuenca, qui est une ville absolument fabuleuse, avec ce qu'on appelle les Casas Colgadas. C'est les maisons suspendues, qui sont sur une espèce de... un village sur un piton rocheux, avec des maisons suspendues au-dessus de l'abîme. Donc je vais rencontrer j'ai déjà des rendez-vous qui sont pris avec des gens de la Guardia Civile du lieu, et avec d'autres personnes aussi, parce que je vais faire tout ce travail. Moi, je trouve ça formidable d'aller rencontrer des gens qui vous parlent de leur métier, d'aller visiter des lieux, non pas comme un touriste, mais au contraire comme celui qui cherche ce qui est caché derrière les portes, derrière les monuments, c'est la vraie vie, les habitants. Voilà, c'est très très. Et puis j'ai été aussi évidemment souvent amené à voyager pour mettre avec les traductions dans des pays où peut-être j'aurais jamais mis les pieds si j'avais pas été traduit, quoi.
Dans le polar, vous faites plusieurs petits clins d'œil à d'autres auteurs de polar.
Oui,
ça c'est un jeu que vous avez souvent entre vous, auteurs de polar.
C'est la preuve qu'on s'entend bien, hein. On se fait des clins d'œil. Oui, d'autres auteurs m'ont fait des clins d'œil déjà, hein, puisque dans deux ou trois romans de Franck Tillier, déjà, il y a un auteur qui s'appelle Caleb Traxman, je crois, qui a un personnage, et le personnage s'appelle le lieutenant Bernard Minier. Donc, alors, en plus, il décrit son auteur, Caleb Traxman, c'est un auteur de polar, mais il est bien tordu, hein, donc je ne sais pas si c'était une allusion ou pas, je ne sais pas. Dans la trilogie qui se passe pendant la Révolution française de Henri de Von Bruck aussi, avec son personnage Gabriel Joly, il y a un inspecteur minier aussi, ouais, avec un petit accent. Et donc voilà, on se fait des clins d'œil, quoi. Ouais, bah c'est sympa.
Oui, ça pour les lecteurs aussi.
Bien.
Ouais. Une dernière question pour finir, même si on en a parlé un petit peu, donc pour pas trop révéler à ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. Donc là, l'année prochaine, Lucia, donc Servaz, on va attendre 2 ans pour avoir la suite.
Ouais, la réponse à la question.
Ouais, c'est ça.
Oui, parce qu'en fait, pour ceux qui l'ont pas lu, la dernière phrase, toute dernière phrase du livre, c'est une question, en quelque sorte. Ça pose question. Alors, vous inquiétez pas, l'enquête est résolue. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en lire deux pour avoir l'enquête est résolue, tout est résolu. Mais ça se termine effectivement sur une question. Bah oui, parce que l'an prochain, ça sera Lucia. On va retrouver Lucia. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi créer ce personnage, le lancer dans le grand bain. Lucia, elle a un côté cash. C'est quelqu'un qui triche pas, qui arrondit pas les angles, qui dit tout ce qu'elle pense. Ce que, en général, on peut pas faire dans la vraie vie. Ou alors, on est en conflit avec beaucoup de gens. Je pense que j'ai déjà une petite idée de ce qui va se passer évidemment avec Servaz dans 2 ans.
Ça. De la réponse à la question.
Oui. Bah là, moi, la réponse à la question, je l'ai.
Là, c'est un peu sadique. Il y a pas des lecteurs qui étaient un peu.
Je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais. Il y en a qui me disent, mais comment vous avez osé faire une chose pareille?
Il faudra attendre 2 ans.
Faut bien s'amuser un peu, quand même. Oui, mais après, bon, comme j'ai dit, l'enquête est résolue à la fin du livre, on connaît le coupable, évidemment.
On verra ça dans 2 ans et l'année prochaine avec Lucia. Merci beaucoup, Bernard Minier, d'avoir répondu à mes questions.
Merci.